Chapitre 12. Le baron écoutait négligemment la lecture des comptes d'un homme d'affaires quand Robin, flanqué de deux soldats et précédé du sergent Lambic, dont nous avions oublié le nom, fut introduit dans sa chambre. Aussitôt, l'impétueux baron imposa silence à son lecteur et s'avança vers la petite troupe en lançant des regards qui ne présageaient rien de bon. Le sergent leva les yeux sur son seigneur, dont les lèvres frémissantes s'entr'ouvraient, et il crut faire un acte de politesse en lui laissant la parole. Mais le vieux Fitzhalwin n'était pas homme à attendre patiemment qu'il pût au sergent de lui adresser son rapport. Aussi lui appliqua-t-il un vigoureux soufflet, comme pour lui dire « J'écoute ».
« J'attendais !» balbutia le pauvre Lambic.
« Moi aussi, j'attendais. Et lequel de nous deux doit attendre, s'il vous plaît? Ne voyez-vous pas, imbécile que vous êtes, que j'ouvre l'oreille depuis une heure ? Mais d'abord, sachez, mon cher monsieur, que l'on a déjà raconté vos exploits et que, cependant, je veux vous faire la grâce d'en entendre une seconde fois le récit de votre propre bouche.
Est-ce qu'Albert vous a dit, monsieur...
Vous m'interrogez, je crois ? Parbleu, voilà du nouveau. Monsieur m'interroge. Ha ha !
Lambic raconta en tremblant l'arrestation du vrai Robin.
« Vous oubliez une petite circonstance, monsieur. Vous ne me dites pas que vous avez relâché, après l'avoir capturé, le coquin à l'arrestation duquel je tenais essentiellement. Cela a été fort spirituel de votre part, monsieur. »«
Vous êtes dans l'erreur, milord. »«
Je ne commets jamais d'erreur, monsieur. Oui, vous avez capturé un jeune homme qui s'est dit Robin Hood et vous l'avez laissé libre quand ce jeune homme de Sherwood apparut. »«
C'est la vérité, milord. » répondit Lambic, qui avait omis par prudence cet épisode de son expédition dans la forêt.
Oh, c'est le plus sage, le plus ardent, le plus pénétrant, le plus rusé des troupiers que maître Lambic, sergent d'une compagnie de mes hommes d'armes, s'écria le baron avec dédain. Puis il ajouta : Tu ne t'es donc pas souvenu des traits de ceux que tu avais mis au cachot quelques heures auparavant ? Roi des idiots ! « Chauve-souris, escargot invalide !»«
Je n'avais vu ni l'un ni l'autre des prisonniers, milord. »«
Vraiment, tu avais alors un emplâtre sur les yeux. »« Avance ici, Robin !» cria le baron d'une voix de tonnerre et en se laissant tomber sur le fauteuil. Les soldats poussèrent Robin devant le baron. « Très bien, jeune bouledogue, aboies-tu toujours aussi fort ? Je vais te dire ce que j'ai déjà dit tantôt. » Tu répondras franchement à mes questions, sinon j'ordonnerai à mes gens de t'assommer. Entends-tu ?
Interrogez-moi, répliqua froidement Robin.
Ah, tu t'amendes, tu ne refuses plus de parler. Bravo !
Interrogez-moi, vous dis-je, milord.
L'œil du baron, qui s'était adouci, flamboya de nouveau et s'attacha sur Robin. Mais Robin sourit.
Comment t'es-tu sauvé, jeune loup ?
En sortant de mon cachot.
J'aurais pu deviner cela sans beaucoup de peine. Qui t'a aidé à fuir ?
Moi-même.
Et qui encore ?
Personne.
Mensonge. Je sais le contraire. Je sais que tu n'as pu passer par le trou de la serrure et que l'on t'a ouvert la porte.
On ne m'a pas ouvert la porte et si je n'ai pas été assez flué pour passer par le trou de la serrure... Du moins, l'embonpoint ne m'a-t-il pas empêché de me glisser entre les barreaux de la lucarne du cachot. De là, j'ai sauté sur le rempart où j'ai trouvé une porte ouverte et, cette porte franchie, j'ai parcouru des escaliers, des galeries, des préaux, puis je suis arrivé au pont-levis et j'étais libre, milord.
Et ton compagnon, comment s'est-il sauvé ?
Je l'ignore.
Il faut cependant que tu me le dises.
« Impossible, nous n'étions pas ensemble, nous nous sommes rencontrés. »«
Dans quel endroit du château vous êtes-vous rencontrés si à propos ?»«
Je ne connais pas l'intérieur du château et ne puis désigner cet endroit. »«
Et ce coquin, où était-il quand le sergent Lambic t'a arrêté ?»«
Je l'ignore, nous étions séparés depuis quelques instants. Je retournais seul chez mon père. »«
Est-ce lui que l'on avait arrêté avant toi ?»«
Non. »
« Mais où est-il ? Qu'est-il devenu ? » ?»«
De qui parlez-vous, milord ? » ?»«
Tu le sais bien, jeune fourbe. Je parle d'Alan Clair, ton complice, ton ami. »«
J'ai vu Alan Clair avant-hier pour la première fois. »« Quelle corruption, grand Dieu! Ils osent nous mentir en face, les vilains d'aujourd'hui! Plus de bonne foi, plus de respect, depuis que les enfants apprennent à déchiffrer les grimoires et à barbouiller du papier. Ma fille elle-même subit l'influence du vice. Elle correspond par ses infernales lettres avec le misérable Alan Clare. Eh bien, puisque tu ignores où il se cache, ce misérable, aide-moi à deviner où je pourrais le trouver, et je te promets la liberté pour récompense.
Milord, je n'ai pas l'habitude de passer mon temps à deviner des énigmes.
Eh bien, je vais t'obliger à consacrer plusieurs heures par jour à cet utile exercice. Hola, Lambic, remets ce bulldog à la chaîne, et s'il s'évade encore, que Dieu te préserve de la potence.
Oh, il ne m'échappera pas, répondit le sergent en hasardant un maigre sourire.
Allons, file, et gare la corde.
Le sergent conduisit Robin de passage en passage, d'escalier en escalier, jusqu'à une petite porte ouvrant sur un étroit couloir. Là, il prit des mains d'un domestique, venu en éclaireur, une torche allumée, et fit entrer Robin dans un réduit dont tout le mobilier consistait en une botte de paille. Notre jeune forestier jeta les yeux autour de lui. Rien de plus hideux que ce cachot. Pas d'issue autre que la porte, faite d'épais madriers bardés de fer. Comment sortir de là? Il cherchait dans sa pensée un moyen, un expédient, pour rendre inutiles les minutieuses précautions de son geôlier et n'en trouvait aucun, lorsque tout à coup, il vit briller dans l'obscurité du couloir, derrière les soldats, le regard clair et limpide d'Albert. Cette vision lui rendit l'espérance et il ne douta plus de sa délivrance prochaine en pensant que des cœurs dévoués compatissaient à sa misère.
« Voilà votre chambre à coucher, dit Lambic. Entrez, messire, et nargue le chagrin. Nous devons tous mourir un jour, vous ne l'ignorez pas. Que ce soit aujourd'hui, demain ou plus tard, qu'importe. Qu'importe aussi le genre de mort. Mourir d'une façon ou d'une autre, c'est toujours mourir. »
« Vous avez raison, sergent, répondit Robin avec calme, et je comprends qu'il vous serait indifférent de mourir comme vous avez vécu, c'est-à-dire comme un chien. » En disant cela, Robin examinait du coin de l'œil la porte encore ouverte et relevait la position des soldats au dehors. Le domestique qui avait cédé sa torche à Lambic était parti, le jeune Hal également. Brisés de fatigue, les soldats, au nombre de quatre, se tenaient nonchalamment appuyés contre les murailles et ne prêtaient guère d'attention à la causerie de leur chef avec le prisonnier. Habile à concevoir et prompt à exécuter, le jeune loup de Sherwood profita de l'inattention des hommes d'armes et de la faiblesse relative de Lambic, dont les mouvements étaient gênés par la torche qu'il tenait de la main droite, et bondissant comme un chat sauvage, il poussa la torche sur le visage de Lambic, l'y éteignit du cou et s'élança hors du cachot. Malgré l'obscurité, malgré les atroces douleurs que lui causaient les brûlures de son visage, Lambic, suivi de ses hommes, appuya une vigoureuse chasse aux fugitifs. Mais jamais lièvre déboulé n'était parti si prestement, jamais aussi renard ayant meute sur ses pistes ne fit plus de crochets, et vainement, les limiers du baron hurlèrent en fouillant dans les coins et recoins des immenses galeries. Robin leur échappa. Déjà, depuis quelques instants, le jeune homme ne marchait plus qu'à petits pas, sans savoir où il se trouvait, et les bras tendus en avant pour se garer des obstacles, quand il se heurta contre un être humain qui ne put retenir un cri de frayeur.
« Qui êtes-vous » demanda-t-on d'une voix presque tremblante.
« C'est la voix d'Albert, » pensa Robin.
« C'est moi, mon cher Hal, » répondit le jeune forestier.
« Qui, vous ?»«
Moi, Robin Hood. Je viens de m'échapper, ils me poursuivent, cachez-moi quelque part. »«
Suivez-moi, messire, » dit le brave enfant. « Donnez-moi la main, marchez tout près de moi, et surtout, pas un mot. » Après mille tours et détours dans l'obscurité, et remorquant le fugitif par la main, Albert s'arrêta et frappa légèrement à une porte dont l'aisé mal joint laissait filtrer quelques rayons de lumière. Une voix douce s'enquit du nom du visiteur nocturne.
« Votre frère Hal !»
La porte s'ouvrit aussitôt.
« Quelle nouvelle avez-vous, cher frère ?»
demanda Maud en pressant les mains du jeune garçon.
J'ai mieux que des nouvelles, chère Maud. Tournez la tête et regardez.
Juste ciel, c'est lui !
S'écria Maud en sautant au cou de Robin. Surpris et peiné d'un accueil qui révélait une passion qu'il était loin de partager, Robin voulut raconter les faits de son retour au château, de sa nouvelle évasion, mais Maud ne le laissa pas parler.
Sauvé, sauvé, sauvé ! Balbutiait-elle follement avec des larmes, des rires, des sanglots et des baisers. Sauvé, sauvé !
Quelle étrange fille vous êtes, Maud, disait l'innocent novice écuyer. Je croyais vous faire plaisir en vous amenant ici messire Robin Hood, et voilà que vous pleurez comme une madeleine.
Ah, la raison, ajouta Robin, vous gâtez vos beaux yeux, chère Maud. Redevenez donc joyeuse autant que vous l'étiez ce matin.
C'est impossible, répondit la jeune fille avec un profond soupir.
Je ne veux pas le croire, répliqua Robin, penché sur la tête de Maud et posant les lèvres sur les bandeaux de ses cheveux noirs qui encadraient son front.
Maud se ressentit sans doute de la froideur que le jeune forestier mettait dans ces simples mots. Je ne veux pas le croire, car elle pâlit et sanglota amèrement.
Chère Maud, ne pleurez plus, me voilà, répétait sans cesse Robin. Dites-moi la cause de votre chagrin.
Ne me demandez pas cela aujourd'hui. Plus tard, vous saurez tout. Lady Christabel et moi, nous pensions à vous rendre libre. Oh, quelle joie quand elle saura que vous l'êtes déjà. Mais si Alan Clare a reçu sa lettre, quelle réponse lui apportez-vous?
Mais Sir Alan n'a pas eu la possibilité ni d'écrire ni de conférer avec moi. Mais je connais ses intentions et je veux, à l'aide de Dieu et votre concours, chère Maud, enlever du château Lady Christabel et la conduire près de son fiancé.
Je cours prévenir Milady, dit vivement Maud. Mon absence ne sera pas de longue durée. Attendez ici mon retour. Viens avec moi, Al.
Robin, demeuré seul, s'assit au bord du lit de la jeune fille et rêva. Nous avons déjà dit que, malgré sa jeunesse, Robin parlait et agissait comme un homme. Cette précoce raison, il la devait aux soins de Gilbert pour son éducation. Gilbert lui avait appris à penser seul, à agir seul et à bien agir. Mais il ne lui avait pas révélé que les sympathies autres que celles de l'amitié peuvent naître fortuitement et se développer irrésistibles entre deux êtres d'un sexe différent. La conduite de Maud, depuis le furtif baiser qu'il avait déposé sur sa main en sortant de la chapelle, l'étonnait donc beaucoup. Mais à force d'y rêver, et comme par intuition, il crut deviner ce que c'était que l'amour. Il comprit aussi que c'était de l'amour que Maud ressentait pour lui, et il s'en affligea, car il ne ressentait rien pour elle, sinon qu'il la trouvait jolie, gracieuse, aimable et pleine de dévouement. Cependant, tout en s'affligeant de son indifférence involontaire pour Maud, il en vint à se reprocher cette même indifférence et à se demander s'il ne devait pas, sous peine de manquer de probité, s'efforcer de rendre à Maud amour pour amour. Le naïf adolescent allait donc donner son cœur qu'il croyait encore libre, quand soudain l'image chérie de Marianne passa devant ses yeux.
« Oh, Marianne, Marianne » s'écria-t-il avec enthousiasme.
La cause de Maud était à jamais perdue. Bientôt succédèrent à cet enthousiasme le doute et la tristesse. Marianne, de même que Christabel, appartenait à une noble famille et Marianne ferait fi de l'amour d'un obscur forestier. Marianne aimait déjà peut-être quelques beaux cavaliers de la cour. Certes, Marianne lui avait déjà donné de bien tendres regards, mais qui prouvait au jeune homme que ces regards si tendres n'étaient pas uniquement inspirés par la reconnaissance? À mesure que Robin s'adressait ses questions, et beaucoup d'autres encore, auxquelles il répondait à son désavantage, la cause de Maud s'améliorait. Maud, jolie, aussi jolie que Marianne et Christabel, n'était pas noble. Maud n'avait pas pour adorateurs des gentilshommes, et un humble forestier pourrait lutter contre ses adorateurs. Maud donnait de tendres regards à Robin, et ses regards n'étaient point provoqués par la reconnaissance. Au contraire, c'était Robin qui devait de la reconnaissance à Maud. Robin éprouvait d'étranges sensations pendant ses rêveries et s'y abandonnait avec des alternatives de bonheur et d'angoisse, quand un bruit de pas lourd et très différent de ceux de la légère Maude retentit dans le couloir. Ce bruit s'approchait de la chambre et Robin éteignit la lumière au premier coup vigoureusement frappé sur la porte. « Hola, Maude !» dit le visiteur au dehors. « Pourquoi éteignez-vous la lumière ?» Robin eut garde de répondre et se blottit entre le lit et la muraille. « Maude, ouvre-moi !» Impatienté de ne pas recevoir de réponse, le visiteur ouvrit la porte et entra. Sans l'obscurité, Robin aurait pu voir un homme d'une haute stature et d'une corpulence proportionnée. « Maude, Maude, parleras-tu ? Je suis certain que tu es ici. J'ai vu briller ta lampe par les fentes de la porte. » Et l'homme, à grosse voix bourrue, cherchait en tâtonnant par toute la chambre. Robin, pour plus de sûreté, se glissa sous le lit. « Les stupides meubles !» dit l'homme qui se heurta le front contre une armoire et s'embarrassa les jambes dans une chaise. « Ma foi, pour plus de sûreté, je m'assieds par terre. » Un long silence se fit. Robin ne respirait qu'à rares intervalles et le plus doucement possible. « Mais où peut-elle être ? » reprit l'étranger en allongeant le bras et en promenant sa main sur le lit. « Elle n'est pas couchée. Sur mon âme, je commence à croire que Gaspard Stenkoff m'a dit la vérité, une vérité qui lui a valu un bon coup de poing à Gaspard. Il m'a dit « Ta fille, maître Huberlinsey, embrasse les personnes aussi librement que je bois un verre d'elle. » Oh, le coquin de Gaspard, osez me dire à moi qu'un enfant qui m'appartient à moi et dont je suis le père, moi, embrasse les prisonniers ? Oh, le coquin ! Cependant, je trouve très bizarre qu'à une heure aussi avancée, Maude ne soit pas dans sa chambre. Elle ne peut être auprès de Lady Christabel. Où est-elle alors ? Mon Dieu, j'ai l'enfer dans la tête ! Où est-elle, ma petite Maude ? Où est-elle ? Par la Sainte Mère de Dieu, si Maude commet une faute, je... Bah ! Je suis un aussi misérable coquin que Gaspard Stenkoff. J'insulte mon sang, ma vie, mon cœur, mon enfant, ma Maude chérie. Ah, vieille tête folle que je suis! J'oubliais qu'Albert est sorti du château pour aller chercher un médecin, car Milady est malade, et Maude est auprès de Milady. Oh, que je suis donc content, bien content, de m'être souvenu de cela! Je mériterais d'être roué pour avoir eu de mauvaises pensées sur ma chère fille. » Robin, immobile sous le lit, avait eu lui aussi de mauvaises pensées et de plus un certain tressaillement de jalousie avant de reconnaître dans le visiteur nocturne le gardien porte-clés du château, l'honnête père de Maude, Hubert Lindsay. Des pas légers et précipités, le frôlement d'une robe, le rayonnement d'une lampe, interrompirent le monologue d'Hubert qui se remit sur ses pieds. Maude, à sa vue, ne put retenir un cri d'effroi et lui dit avec anxiété « Pourquoi êtes-vous ici, mon père ?»« Pour causer avec toi, Maude. » »«
Nous causerons demain, père. Il est fort tard, je suis fatiguée et j'ai besoin de dormir. » »«
Je n'ai que quelques mots à te dire. »
« Je ne veux rien entendre, cher père. Je vous embrasse et je deviens sourde. Bonsoir. »
« Je n'ai qu'une question à te faire. Tu y répondras et je partirai. »
« Je suis sourde, vous dis-je, et je vais devenir muette. Bonsoir, 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 » ajouta Maude en approchant son front des lèvres du vieillard.
« Pas de bonsoir encore, fille, » dit Hubert d'un air grave. « Je veux savoir d'où vous venez et pour quelle raison vous n'êtes pas encore couché. »
« Je viens de l'appartement de Milady, qui est très souffrante. »
« Fort bien. Autre question. Pourquoi êtes-vous si prodigue de vos baisers en faveur de certains prisonniers ? Pourquoi embrassez-vous un étranger comme s'il était votre frère ? C'est mal agir, Maude. »
« J'ai embrassé des étrangers ? Moi ? Moi ? Et qui donc a inventé cette calomnie ?»
Gaspard Stenkoff.
Gaspard Stenkoff en a menti, mon père. Mais il n'aurait pas menti en vous faisant connaître quelle fut ma colère et mon indignation quand il eut l'audace de chercher à me séduire.
Il a osé,
s'écria Hubert, rugissant de colère.
« Il a osé !» répéta énergiquement la jeune fille.
Puis, fondant en larmes, elle ajouta
« Je lui résistais, je lui échappais, et il me menaça de sa vengeance. »
Hubert tint sa fille pressée sur sa poitrine, et après quelques instants de silence, il dit avec calme, un de ces calmes au fond desquels on devine le sang-froid d'une implacable colère. Il dit « Que Dieu, s'il pardonne à Gaspard Tenkoff, lui accorde la paix dans l'autre monde. Pour moi, je n'aurai plus de paix en celui-ci avant que je n'aie puni cet infâme. Embrasse-moi, mon enfant, embrasse ton vieux père qui t'aime, qui te respecte, qui prie le ciel de veiller sur ton honneur. » Et maître Hubert Lindsay regagna son poste.
« Robin !» demanda aussitôt la jeune fille. « Où êtes-vous ? »
« Me voilà, Maude !» répondit Robin, déjà sorti de sa cachette.
« J'étais perdu si mon père s'était aperçu de votre présence !»«
Non, chère Maude !» répliqua le jeune homme avec une admirable candeur. « J'aurais, au contraire, témoigné de votre innocence. Mais dites-moi, quel est donc ce Gaspard Tenkoff ? L'ai-je déjà vu ?»
Oui, il surveillait le cachot quand vous avez été emprisonné pour la première fois.
C'est donc lui qui nous a surpris quand nous... causions ?
Lui-même, reprit Maude, qui ne put s'empêcher de rougir.
Vous serez vengé alors, je me souviens de sa figure, et quand je le rencontrerai...
Ne vous occupez pas de cet homme, il n'en vaut guère la peine. Méprisez-le comme je le méprise. Lady Christabel désire vous voir. Mais avant de vous conduire près d'elle, j'ai quelque chose à vous dire, Robin. Je suis très malheureuse et... »
Maud s'arrêta, les sanglots l'étouffaient.
« Encore des larmes ? » s'écria affectueusement Robin.
« Ah, ne pleurez pas ainsi. Puis-je vous être utile ? Puis-je contribuer à votre bonheur ? Dites-le-moi et je me mets corps et âme à votre service. » N'hésitez pas à me confier vos peines. Un frère doit se dévouer pour sa sœur, et je suis votre frère.
Je pleure, Robin, parce que je suis forcé de vivre dans cet horrible château où il n'y a pas d'autre femme que Lady Christabel et moi, excepté les filles de cuisine et de basse-cour. J'ai été élevé avec Milady, et malgré la différence de nos rangs, nous nous aimions comme des sœurs. Je suis la confidente de ses chagrins, je partage aussi ses joies. Mais, en dépit des efforts de cette bonne maîtresse, je comprends, je sens que je ne suis que sa servante et je n'ose lui demander des conseils et des consolations. Mon père, si bon, si honnête et si brave, ne me protège que de loin et j'aurai besoin, je l'avoue, d'être protégée de près. Chaque jour, les soldats du baron me courtisent et m'insultent en se méprenant sur la légèreté naturelle de mon caractère, sur ma gaieté, sur mes rires, sur mes chansons. Non, je ne me sens plus la force de supporter cette abominable existence. Il faut qu'elle change ou que je meure. Voilà, Robin, ce que j'avais à vous dire, et si Lady Christabel quitte le château, je vous prie de m'emmener avec elle. »
Le jeune forestier ne put répondre que par une exclamation de surprise.
« Ne me repoussez pas, emmenez-moi, je vous en conjure !» reprit Maude d'un ton passionné. « Je mourrai, je me tuerai, je veux me tuer si vous franchissez le pont-levis sans moi !»«
Vous oubliez, chère Maude, que je ne suis encore qu'un enfant et que je n'ai pas le droit de vous conduire dans la maison de mon père. Mon père vous repousserait peut-être. »
« Un enfant ?» répliqua la jeune fille avec dépit. « Un enfant qui, ce matin, buvait à ses amours ?»«
Vous oubliez aussi votre vieux père qui mourait de chagrin. Tout à l'heure, je l'ai entendu. Il vous a béni, il a juré de punir un calomniateur. »«
Il me pardonnera en pensant que j'ai suivi ma maîtresse. » »«
Mais votre maîtresse peut fuir, elle. Messire Alan Clair est son fiancé. »
« Vous avez raison, Robin. Moi, je ne suis qu'une pauvre abandonnée. »
« Il me semble cependant que frère Tuck pourrait vous... »«
Oh, c'est mal, très mal ce que vous dites !» s'écria Maud avec indignation. «
J'ai ri, j'ai chanté, j'ai follement causé avec le moine, mais je suis innocente, entendez-vous, je suis innocente. Mon Dieu, ils m'accusent tous, je suis pour tous une fille perdue. Ah, je sens que je deviens folle. »
Et la figure voilée de ses deux mains, Maud s'agenouilla en gémissant. Robin était profondément ému. « Relève-toi, dit-il avec douceur. Eh bien, tu fuiras avec Milady et tu viendras chez mon père Gilbert, tu seras sa fille, tu seras ma sœur. »
« Dieu te bénisse, noble cœur !» répliqua la jeune fille, la tête appuyée sur l'épaule de Robin. « Je serai ta servante, ton esclave !»«
Tu seras ma sœur. Allons, Maud, un sourire maintenant, un joli sourire à la place de ces vilaines larmes. »
Maud sourit. « Le temps presse, conduis-moi chez Lady Christabel. »
Maud sourit encore, mais ne bougea pas.
« Eh bien, chère, qu'attends-tu ? » ?»«
Rien, rien, partons !»
Et ce mot « partons » fut dit entre deux baisers sur les joues empourprées de notre héros. Lady Christabel attendait avec impatience le messager d'Alan.
« Puis-je compter sur vous, messire ? » demanda-t-elle dès que Robin parut dans sa chambre.
« Oui, madame. »«
Dieu vous récompensera, messire, je suis prête !»
« Et moi aussi, chère maîtresse !» s'écria Maud. « En route, nous n'avons pas un instant à perdre !»«
Nous ?» répliqua Christabel étonnée.
« Oui, nous, Milady, nous, nous !» riposta la camériste en riant. « Croyez-vous donc, madame, que Maud puisse vivre éloignée de sa chère maîtresse ?»«
Quoi ? Tu consens à m'accompagner ?»
« Non seulement j'y consens, mais encore je mourrais de douleur si vous n'y consentiez pas, madame. »«
Et je suis du voyage aussi, » s'écria Albert, qui jusqu'alors s'était tenu à l'écart. « Milady me prend à son service. Messire Robin, voici votre arc et vos flèches dont je m'emparais quand on vous arrêta dans la forêt. »«
Merci, Al, » dit Robin. « À partir d'aujourd'hui, nous sommes amis. »
« À la vie, à la mort, messire !» ajouta le jeune gars avec un naïf orgueil.
« En route donc !» s'écria Maud. « Al, passe devant nous, et vous, Milady, donnez-moi la main. Maintenant, silence général et complet. Le moindre chuchotement, le plus petit bruit pourrait nous trahir. »
Le château de Nottingham communiquait avec le dehors par d'immenses souterrains dont l'entrée s'ouvrait dans la chapelle et la sortie dans la forêt de Sherwood. Al les connaissait assez pour pouvoir y servir de guide. Le passage de ces souterrains n'était donc pas difficile. Mais il fallait d'abord gagner la chapelle. Or, la porte de la chapelle n'était plus libre comme au commencement de la nuit, le baron Fitzhalwin venait d'y faire placer une sentinelle. Par bonheur pour les fugitifs, cette sentinelle avait jugé à propos de monter sa garde en dedans de la chapelle et, vaincue par la fatigue, elle s'était endormie sur un banc, à l'instar d'un chanoine dans une stalle. Les quatre jeunes gens pénétrèrent donc dans le saint lieu sans réveiller le soldat et sans même se douter de sa présence, tant l'obscurité était grande. Et ils allaient atteindre l'entrée des souterrains lorsqu'Albert, qui marchait en avant, se heurta contre un mausolée et tomba lourdement.
« Qui vive ?» demanda soudain le factionnaire, qui se crut pris en flagrant délit de sommeil.
L'écho répéta seul le bruyant « Qui vive ?» et ses retentissements prolongés de piliers en piliers et de voûtes en voûtes masquèrent le bruit des voix et des mouvements des fugitifs. Al se blottit derrière le tombeau, Robin et Christabel sous l'escalier de la chaire. Maud seule n'eut pas le temps de se cacher. La lumière d'une torche éclaira la chapelle et le factionnaire s'écria « Parbleu, c'est Maud, Maud la pénitente à frère Tuck. Sais-tu, ma charmante, que tu as fait trembler la moustache de Gaspar Stenkoff en le réveillant ainsi brusquement pendant qu'il rêvait de tes grâces ?» Corps de Dieu, j'ai cru que le vieux sanglier de Jérusalem, notre aimable Seigneur, passait la revue des sentinelles. Mais vive la joie, il ronfle le bonhomme, et la beauté me réveille. » Et, cela disant, le soldat planta sa torche dans un candélabre du lutrin et s'avança vers Maud, les bras ouverts pour lui saisir la taille.
Maud répondit froidement.
« Oui, je viens prier Dieu pour Lady Christabel, qui est très souffrante. Laissez-moi donc prier, Gaspard Steinkopf. »
Oh là, là !» pensa Robin, en mettant silencieusement une flèche à son arc. « C'est le calomniateur !»«
À plus tard les oraisons, la belle !» reprit le soldat, dont les mains effleuraient déjà le corsage de la jeune fille.
« Ne soyons pas farouches et donnons à Gaspard un baiser, deux baisers, trois baisers, beaucoup de baisers. »«
Arrière, te lâche, insolent !» s'écria Maud en reculant elle-même.
Le soldat fit un nouveau pas en avant.
« Arrière, calomniateur, tu as tenté de me faire maudire par mon père pour te venger du mépris avec lequel j'ai repoussé tes odieuses galanteries. Arrière, monstre, qui ne respecte même pas la sainteté de ces lieux. Arrière !»«
Triple damnation !» s'écria Gaspard, écumant de rage et saisissant la jeune fille à bras-le-corps.
« Triple damnation, tes insolences seront punies !»
Maud résistait énergiquement et ne doutait pas qu'Albert et Robin vinssent à son secours. Mais en même temps, elle craignait que le bruit d'une lutte n'attirât l'attention des soldats du poste le plus voisin. Elle s'abstenait donc de pousser des cris et répliquait aux soldats
« C'est toi qui seras puni !»
quand une flèche, lancée par une main qui ne manquait jamais son but, traversa le crâne du bandit et le renversa mort sur les dalles du temple. Moins prompt que la flèche, Al accourait pour défendre sa sœur, mais elle s'était déjà évanouie en murmurant
« Merci, Robin, merci !»
Les lueurs tremblotantes de la torche éclairèrent d'abord deux corps inanimés et gisant côte à côte sur le sol. L'un restait isolé dans la mort et près de l'autre, des cœurs dévoués attendaient, des yeux amis épiaient les symptômes d'un retour à la vie. Robin puisait l'eau des bénitiers à deux mains et en mouillait doucement les tempes de la jeune fille. Al frappait de ses mains dans la paume des siennes et Christabel lui prodiguait les plus doux noms de l'amitié en invoquant le secours de la Vierge. Tous trois, enfin, s'efforçaient de ranimer les sens de la pauvre Maud et ils eussent renoncé à fuir plutôt que de l'abandonner dans cet état. Quelques minutes s'écoulèrent avant que Maud rouvrit les yeux et ces minutes parurent des siècles. Mais quand ses paupières se dessillèrent, un long regard, le premier, un céleste regard, rempli de gratitude et d'amour, s'arrêta sur Robin. Un sourire s'échappa de ses lèvres blêmies, des nuances rosées remplacèrent la froide pâleur des joues, sa poitrine se dilata, ses bras se réunirent aux bras tendus pour la soulever de terre, et secouant sa léthargie, elle s'écria la première « Partons !» La marche dans le souterrain dura plus d'une grande heure. « Enfin, nous arrivons, » dit Al. « Courbez le dos, la porte est basse et prenez garde aux épines d'une haie qui masque l'issue de ce passage dehors. Tournez à gauche. Bien, suivez le sentier le long de la haie. Et maintenant, adieu la torche et vive le clair de lune, nous sommes libres. » « Et à mon tour de servir de pilote, » dit Robin en s'orientant. « Je suis chez moi. » La forêt est à moi. Ne craignez rien, mesdames, et au point du jour, nous rejoindrons Messire Alan Clare. La petite caravane s'avança lestement à travers les taillis et les futaies, malgré la fatigue des deux jeunes filles. La prudence défendait de suivre les sentiers et de traverser les clairières où le baron avait sans doute déjà lancé ses limiers. Et au risque de déchirer les robes et de se meurtrir pieds et jambes, il fallait voyager, comme les daims, de fort en fort, de trouées en trouées. Robin paraissait réfléchir profondément depuis quelques minutes et Maud lui en demanda timidement la cause. « Chère sœur, dit-il, il faut que nous nous séparions avant le jour. Albert va vous accompagner jusque chez mon père et vous expliquerez au bon vieillard pourquoi je ne suis pas encore de retour de Nottingham. » Il est utile et prudent de l'avertir que je conduis sans retard Milady auprès de Messire Alan Clare. Les fugitifs se séparèrent donc après de tendres adieux, et Maud dévora ses larmes et étouffa ses sanglots en s'engageant à la suite d'Albert dans le sentier que lui indiqua Robin. Lady Christabel et son chevalier, car désormais Robin est un vrai chevalier, atteignirent promptement la grande route de Nottingham à Mansell Woodhouse
et Robin, avant de s'y engager, grimpa sur un arbre et explora du regard les alentours de l'horizon. Rien de suspect n'apparut d'abord, et aussi loin que sa vue pouvait porter, la route lui sembla libre. Mais pendant que le jeune homme descendait de son observatoire en se croyant favorisé du sort, il vit poindre, au sommet d'une des côtes de la route, un cavalier qui s'avançait à franc étrier. Blottissez-vous là, milady, là, dans ce fossé, derrière ce buisson, à mes pieds, et pour l'amour de Dieu, ne faites pas un mouvement, ne poussez pas le plus petit cri d'effroi. Y a-t-il du danger? Craignez-vous quelque chose, messire? Demanda Christabel en voyant Robin mettre une flèche à son arc et se poster en embuscade derrière un tronc d'arbre. Vite, milady, cachez-vous. Un cavalier s'avance vers nous et j'ignore si c'est un ami ou un ennemi. Après tout, si c'est un ennemi, ce n'est jamais qu'un homme et une flèche bien lancée arrêtera toujours un homme. Robin osait ajouter, de peur d'effrayer encore plus sa compagne, qu'il reconnaissait aux premières lueurs du matin les couleurs du baron Fitzhalloween sur le pennon du cavalier. Christabel, de son côté, devinait les intentions hostiles de Robin et aurait voulu pouvoir crier « Plus de sang, plus de mort, cette liberté nous coûte déjà trop cher !» Mais Robin, d'une main, tenait son arc et de l'autre, lui imposait silence par un geste d'autorité, tandis que le cavalier s'approchait ventre à terre. « Au nom du Dieu vivant, cachez-vous, milady !» murmura Robin, les dents serrées et comme mangeant sa voix. « Cachez-vous !» Christabel obéit et, la tête enveloppée dans son manteau, adressa une prière mentale à la Vierge. Cependant, le cavalier s'approchait, et Robin, campé derrière l'arbre, l'arc tendu et la flèche à l'œil, le guettait au passage. Le cavalier passa, il passa, rapide comme l'éclair, mais plus rapide encore, une flèche le gagna de vitesse, frôla la hanche du cheval, se glissa obliquement entre son flanc et le coussin de la selle et lui pénétra dans le ventre jusqu'à l'empennage, et bête et cavalier roulèrent dans la poussière. « Fuyons, milady !» s'écria Robin, « fuyons !» Christabel, plus morte que vive, tremblait de tous ses membres et balbutiait ces mots.
Il l'a tué! Il l'a tué! Il l'a tué!
Fuyons, milady, répéta Robin, fuyons, le temps presse!
Il l'a tué! Balbutiait follement Christabel.
Mais non, je ne l'ai pas tué, milady!
Il a poussé un cri horrible, un cri d'agonie!
Il n'a poussé qu'un cri de surprise.
Vous dites?
Je dis que ce cavalier était lancé à notre recherche et que nous étions perdus si je n'avais mis son cheval dans l'impossibilité de le porter plus longtemps. Marchons, milady, vous me comprendrez mieux quand vous ne tremblerez plus.
Il n'a même pas une égratignure, milady, mais son pauvre cheval vient de battre son dernier temps de galop. Ce cavalier avait trop d'avantages sur nous. Il pouvait aller de Mansell Woodhouse à Nottingham et en revenir avant que nous ayons quitté cette route. Il était donc urgent d'arrêter sa fougue. Maintenant, les chances sont égales entre nous. Que dis-je? Les nôtres sont supérieures. Il est à pied, et nous sommes à pied, c'est vrai, mais nos pieds sont agiles et sans entrave, tandis que les siens ne le sont pas. Courage, milady, nous serons loin d'ici quand ce messire cavalier aura pu se dégager de dessous son courteau et se mettre en route avec ses grosses bottes qui ne sont plus bottes de 7 lieues. « Courage, milady, Alan Clair n'est pas loin, courage !»